de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche.
Nous sans passer le phare, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les phares, nous sommes le continent noir. Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Delta. Bienvenue dans la 133e édition de Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge Mixte de France. Alors, en cette semaine particulière, Journée internationale des droits des femmes et inscription de l'avortement dans la Constitution française, nous avons choisi d'intituler cette émission « Liberté, 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 mais quelle liberté ?» C'est cette émission, Sylvie Licazion nous propose de faire connaissance avec Jean-Théophile Desaguliers. Cette présentation s'inscrit dans le cadre de la série qu'elle réalise autour des premiers francs-maçons. Nous connaissons souvent le nom de cet illustre franc-maçon qui œuvra en particulier avec Anderson pour écrire les constitutions maçonniques. Écoutons Sylvie Licazion.
Desaguliers, l'artisan du projet constitutionnel maçonnique. Quel maçon n'a jamais entendu ce nom Desaguliers ? Dans l'histoire scientifique et intellectuelle du XVIIIe siècle, John Theophilus Desaguliers ou Jean-Théophile Desaguliers émerge dans la sphère maçonnique, ignorant ses frontières géographiques et disciplinaires. On dit de lui qu'il est l'un des fondateurs de la franc-maçonnerie moderne. Il est français d'origine, il naît le 12 mars 1683 à La Rochelle. Dans deux jours, cela fera exactement 341 ans. Ses parents sont protestants, huguenots plus précisément. Il n'a pas deux ans quand son parcours tumultueux, mais exceptionnel, commence avec l'exil de sa famille vers l'Angleterre, fuyant les persécutions religieuses consécutives à la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Son père est ordonné prêtre anglican sur l'île de Guernesey, il veut l'être aussi. Élevé dès son plus jeune âge dans un environnement marqué par la rigueur intellectuelle et la quête de vérité, Desaguliers a embrassé très jeune l'esprit des Lumières qui imprégnait l'atmosphère intellectuelle de son temps à travers toute l'Europe. Étudiant brillant, il a trouvé sa voie à l'université d'Oxford où il obtient le grade de bachelor des arts libéraux. Il a nourri son esprit curieux des mystères de la nature. Son adhésion à la Royal Society en 1714 marque le début d'une carrière scientifique prolifique. En qualité de secrétaire de cette prestigieuse institution, Desaguliers a contribué à éclairer les esprits de ses contemporains par ses écrits érudits et ses expériences novatrices. Les débuts de sa carrière ont été profondément marqués par la nature des liens qu'il entretenait avec Isaac Newton, président de la Royal Society, et par les motivations politiques qui animèrent son volontarisme. Il devient un ardent défenseur et propagateur des idées d'Isaac Newton, tant scientifique que philosophique, mais aussi politique. En effet, il obtient bien plus tard le grade de docteur en droit. En 1718, il a 35 ans. À la même époque, il est ordonné prêtre anglican et s'engage alors dans des cours de philosophie expérimentale. Le projet politique de Desaguliers vise à concrétiser l'idée de volontarisme selon laquelle l'homme peut trouver sa dignité dans l'administration des œuvres terrestres tout autant que dans sa recherche à connaître le Créateur. Le juriste donne ses arguments dans le système newtonien du monde, meilleur modèle de gouvernement édité en 1728 et dédicacé au roi George II. Les réalisations de Desaguliers s'étendent au-delà des frontières de la connaissance académique. Son travail sur la mécanique, l'électricité et la chaleur a jeté les fondements de la révolution industrielle à venir. Ses expériences sur la conductivité électrique et son rôle dans l'amélioration de la machine à vapeur de Thomas Newcomen ont ouvert de nouvelles voies pour l'exploration scientifique et l'innovation technologique. Cependant, l'héritage de Desaguliers ne se limite pas à la science. En tant que membre éminent de la franc-maçonnerie, il a joué un rôle essentiel dans la diffusion des idéaux humanistes et éclairés qui ont façonné la société de son temps. Il est initié à peine 30 ans à la loge numéro 4, intitulée Antiquité. Il est élu en 1719 vénérable de la loge qui se réunit à la taverne Goose and Gridiron, l'oie et le grill. En 1717, la Grande Loge de Londres et de Westminster se crée, par fusion de quatre loges de cette ville, un événement connu de tous les maçons. En août 1721, il devient membre à l'occasion d'un voyage en Écosse de la loge des maîtres maçons d'Édimbourg. Il en serait élu grand maître en 1719, mais de récents travaux remettent en cause cette affirmation. Il est toutefois attesté comme grand maître adjoint en 1724-1725. Qu'importe le titre, il n'en fait pas l'homme. En 1721, il aide à la rédaction d'une nouvelle version des anciens devoirs de la Constitution avec le pasteur calviniste presbytérien James Anderson. C'est ce texte que toute la récente Grande Loge de Londres adopte pour règle en 1723, fondant ainsi la franc-maçonnerie moderne. Dès le préambule, il rappelle que l'homme a été constitué par le Créateur, responsable de l'accomplissement des œuvres terrestres. Il y établit les prémices du droit constitutionnel maçonnique, dont le caractère positif apparaît comme novateur. Pour la première fois, l'homme, promu individu créateur et sujet de droit au sein d'un espace de sociabilité, dispose de la capacité juridique d'atteindre sa dignité par ses œuvres. Comme Dieu et la religion, le lien est défini qui unit le maçon à la loi morale. Jean-Théophile Desaguliers demeure un symbole de l'audace intellectuelle et de la quête incessante de la vérité qui caractérisait son époque des Lumières, un homme dont la vie et les réalisations résonnent à travers les âges. Son engagement envers la fraternité maçonnique a été un reflet de sa quête constante de vérité, tant sur le plan intellectuel que moral. Le 29 février 1744, à Londres, s'éteignit ce grand esprit dont l'héritage continue d'illuminer les sentiers de la science, de la pensée et de la fraternité.
Pierre de Touche.
Place maintenant à la chronique de Félix Nathalie, autour du devenir de la planète. L'intendant suivra, voici le message engagé qu'il veut nous faire passer autour de la loi anti-gaspillage alimentaire.
Il y a les choses que l'on fait et celles que l'on ne fait pas. Toutes ont des conséquences, que parfois l'on peut mesurer tout de suite, parfois à plus long terme. Si ce n'est que dans notre entre-soi, tout seul dans notre coin, les conséquences peuvent être minimes, mais si l'on s'y met à plusieurs... Si c'est à grande échelle que l'on abandonne ou que l'on contourne, alors c'est destructeur. Trois exemples pêle-mêle. En 2020, le Parlement français a voté la loi AGEC, loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire. Cette loi ambitieuse a pour objectif notamment de réduire de 15% les déchets plastiques à 2030. Mais le rapport publié par 5 ONG le 6 février dernier montre que l'objectif est mis à mal. La production de ces déchets ayant même augmenté pour l'heure. Le lobbying y fait beaucoup, a priori et a posteriori. Pour exemple de la faible efficacité de la loi, certaines mesures qui ne sont pas encore mises en œuvre, car il n'y a pas assez de contrôle ou de sanctions qui ne sont pas encore assez dissuasives. Mieux encore, un décret publié après la loi a eu pour effet d'exempter de la portée de cette loi l'emballage papier des fruits et légumes. Non seulement les lois pour réguler notre utilisation sont difficiles à arracher, mais une fois qu'elles sont votées, elles sont difficiles à mettre en œuvre, et les textes pris au niveau européen ne font pas exception. Mais si ce n'est la loi, les engagements pris devant le public sont-ils toujours respectés? Selon le site de la MILDECA, Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, le tabac est toujours la première cause de mortalité évitable, avec 75 000 décès en France en 2022. En 2018, le Tobacco Free Finance Pledge était adopté par les grandes banques françaises, une charte dans laquelle elles s'étaient engagées à ne plus financer l'industrie du tabac. Mais un rapport commandé par l'Alliance contre le tabac révèle que sur ces 6 dernières années, de grands établissements bancaires français ont prêté des fonds à cette industrie pour un montant de l'ordre de 5,3 milliards de dollars. Que par ailleurs, ils ont également investi sur le marché du tabac. Le montant de ces investissements étant de 733 millions de dollars à la fin de l'année 2023. Alors, peut-être que le salut vient de l'industrie. Le recyclage est une des solutions et un grand nombre d'entreprises et d'associations proposent de le mettre en œuvre ou de nous y accompagner. Mais nous devons être attentifs. Le recyclage nous fait continuer d'utiliser les matières polluantes. Le mouvement de fond doit donc être d'arriver à en baisser la consommation. C'est la production elle-même qui pose problème. Et il n'y a pas de production sans consommation. Mais la chose n'est pas si simple, car l'emballage est également une industrie qui crée de l'emploi. Le changement de nos modes de vie est donc une des clés. Nous le savons. Mais y sommes-nous prêts? L'intendance suivra, aurait dit Napoléon à son arrivée à Saint-Pétersbourg. L'intendance suivra. Mais la loi ne change pas la société d'un coup de baguette magique. Mais les engagements ne changent pas la société d'un coup de baguette magique. Mais les bonnes idées ne changent pas la société d'un coup de baguette magique. Cette phrase que l'on prête à Napoléon ne s'est pas révélée de bon augure pour lui, car l'intendance n'a pas suivi, et le général Hiver a fait son œuvre. Les banques, l'industrie, la production existent, mais elles ne sauraient nous exonérer de notre responsabilité individuelle. C'est à la société, à chacun d'entre nous, tous les jours, de prendre nos responsabilités. Alors oui, la franc-maçonnerie doit être un outil de plus qui porte le message d'alerte envoyé par les acteurs qui s'intéressent à l'environnement. Parce que nos valeurs nous le demandent. Je vous souhaite un bon dimanche et vous retrouverez bientôt pour un nouvel épisode. Potential heights bomb.
introduire la rubrique littérature et rock'n'roll du jour, vous venez d'écouter God Save the Queen des Sex Pistols. Isabelle Chibat s'intéresse aujourd'hui à Alex Delarge et à l'ultra-violence dans le roman de science-fiction Orange Mécanique d'Anthony Burgess et dans le film bien connu de Stanley Kubrick.
Il y avait moi, c'est-à-dire Alex, et mes trois droguises, c'est-à-dire Pete, Georgie et Dean. Nous étions installés au Korova Milk Bar à nous creuser le rassoudoc pour savoir où passer la soirée. Au Korova, on sert du les plus Velocette ou Synthomesque ou Drink Rum. Nous en étions au Drink Rum. Ça vous affûte l'esprit et ça vous met en train pour une bonne petite fête d'ultra-violence. C'est par ces mots que commence le célèbre roman d'Anthony Burgess, Orange Mécanique, A Clockwork Orange, publié en 1962 et adapté magistralement au cinéma par Stanley Kubrick en 1971. C'est une œuvre qui a fait scandale dans la mesure où Alex et ses droguises, c'est-à-dire ses camarades, ses acolytes, éprouvent une réelle jouissance dans l'exercice de l'ultra-violence. Dans l'Angleterre des années 60, on parle peu, que ce soit dans les médias ou au cinéma, de ce phénomène, tant il est encore sans doute marginal. En effet, Alex, qui dans le roman a 14 ans, mène une double vie matérialisée par la symbolique du regard, de l'œil. Son œil droit est grimé, maquillé, il porte des faux cils et il retire ces derniers une fois qu'il rentre chez lui et qu'il a commis ses méfaits. Donc c'est un adolescent en apparence sans histoire le jour, quand il est chez ses parents et qu'il sèche ses cours en écoutant son artiste préféré, Beethoven, et qui se mue en voyou sans foi ni loi la nuit tombée. Agression sur des SDF, violence série, cambriolage, Alex représente une certaine jeunesse, une jeunesse totalement désaxée, dérangeante, car il ne ressent ni culpabilité ni état d'âme en commettant ses méfaits. Au contraire, il y a chez lui une ivresse dans la destruction et dans le crime qui ont été esthétisées magistralement par Kubrick au cinéma. On pense notamment à la première scène de viol dans un hangar désaffecté au début du film et que Kubrick transforme en ballet. La scène de viol se fait danse dans un hangar qui se mue en théâtre. Ce qu'il y a de paradoxal dans le film, et c'est là le génie de l'écrivain et du réalisateur, c'est qu'il parvient à exposer l'ultra-violence sans jamais représenter de sang sur scène. La seule vision du sang a lieu lorsqu'Alex se fait frapper par le policier lors de son interrogatoire. Puisque oui, Alex se fait finalement attraper par la police. Qu'y a-t-il de dérangeant au juste, au-delà de l'ultra-violence suggérée par l'œuvre de Burgess ? C'est la moralité totale des personnages. Burgess invente à ce titre une langue nouvelle, le Natsat, qui est un argot anglo-russe. Ainsi, les personnages se droguent avant de commettre leur crime au Korova Milk Bar. Sexe, drogue et musique classique en lieu et place du rock'n'roll. Le fait qu'Alex soit admirateur de Beethoven montre le paradoxe même du personnage. Il est raffiné dans ses goûts musicaux, mais cruel dans ses actes. Et Kubrick avait expliqué qu'il avait voulu souligner ici l'analogie avec les nazis qui réceptionnaient les déportés dans les camps de concentration et d'extermination sur fond de musique classique jouée par l'orchestre du camp ou même pendant les exécutions. Donc c'est une charge importante contre les pouvoirs de toutes sortes, judiciaires, politiques, gouvernementaux, étatiques. C'est là que réside la véritable violence d'Orange Mécanique. Celle qui est exposée dans la première partie se met au service de la seconde, c'est-à-dire celle des pouvoirs politiques qui tentent de reprogrammer le cerveau d'Alex avec la méthode Ludovico. Alors, la méthode Ludovico consiste à faire naître un conditionnement nouveau dans le cerveau d'Alex. On lui fait visionner les yeux écartelés pendant des heures, des images violentes, en lui inoculant l'envie irrépressible de vomir, comme un nouveau réflexe pavlovien. Le gouvernement expérimente cette technique afin de réhabiliter les criminels, mais le traitement se révèle encore plus criminel que le crime initial, car on assiste à une véritable dénaturation de l'être humain. Burgess pose une question fondamentale. Que faire de nos criminels ? Doit-on à tout prix les soigner pour les faire rentrer dans la norme ? Et il dresse un portrait réaliste de l'être humain. Oui, il y a des prédateurs sexuels et des âmes cruelles en ce bas monde. Le lectorat de l'époque et les spectateurs du film de Kubrick ont eu tort de s'arrêter à la première partie du livre qui exposait la violence et de ne pas prendre en compte la seconde partie qui est véritablement une charge lourde contre la société. Burgess n'expose pas l'ultraviolence pour le simple plaisir de l'exposition, car dans la seconde partie, la satire du système judiciaire, de la police et des dérives de toutes les formes d'endoctrinement qui se font au nom du bien est vraiment exposée. Alors évidemment, à la fin du roman, Alex tente de se suicider, car il a perdu sa seule et unique part d'humanité. Son amour pour Beethoven est devenu pour lui une douleur insupportable suite au traitement Ludovico. Et comble de l'ironie, il est pris en charge par le ministre de l'Intérieur qui sourit à la presse dans la chambre d'hôpital d'Alex. On a atteint ici le comble du cynisme et de l'ironie. La morale du roman, comme du film, pourrait se résumer ainsi. Le bien vient du dedans. Il est le résultat d'un choix. L'homme qui ne peut plus faire ce choix n'est plus un homme. C'est la parole du prêtre dans le film et dans le roman. Et voilà la réponse des politiques. Je cite « L'éthique ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la baisse de la criminalité. L'essentiel est que cela agisse. » Alors oui, Alex est inhumain par sa cruauté au début du livre, mais il est dénaturé à la fin du roman et au monstre premier, c'est-à-dire le monstre naturel qu'il était, se substitue un second monstre, un monstre vidé de sa substance, nauséabonde certes, mais déshumanisé, une sorte de Frankenstein des temps modernes, fruit des manœuvres cyniques des gouvernants. Car il ne peut plus tuer ni violer, mais il ne peut plus non plus écouter la 9e symphonie de Beethoven. L'emprise de l'État sur l'individu, alliée à une science sans conscience, produit une société de robots décérébrés, comme dans le docteur Follamour, incapable d'agir, pour le pire comme pour le meilleur. La seule solution peut-être se situe dans l'art et dans l'amour de la musique. Je vous invite à écouter cette fameuse chanson des Pink Floyd qui est un appel à la révolte et à l'insoumission. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Thank you.
pour conclure cette séquence littéraire, Another Brick in the Wall de Pink Floyd, vous l'aurez reconnu. Voici venue l'heure de retrouver Michel Baron et la chronique Psychophilo. Aujourd'hui, la liberté d'en rire.
Bonjour. Nous allons évoquer la liberté d'en rire. Albert Camus, dans Le siècle de la peur de 1946, écrit « La peur signifie et refuse le même fait. Un monde où le meurtre est légitimé et où la vie humaine est considérée comme futile. » Voilà une pensée bien profonde à partir du cinéma et du festival de La Rochelle, le célèbre festival qui dépasse les 50 ans maintenant. Et c'est incontestablement un lieu où la fête règne, un lieu de réflexion et de plaisir partagé, ce festival du film de La Rochelle, avec en embuscade la surprise d'une découverte que l'on n'attendait pas, qui vient là, à la sauvette, autour d'un plat de sardines grillées, d'une salle obscure ou du soleil couchant sur les tours du port. Mon chemin de Damas, à moi, cette année, s'est déroulé d'une étrange façon et avait pour base ma réticence, il faut l'avouer, à voir ou revoir les films de Pierre Richard, que je jugeais avec, je dois avouer, une certaine sévérité. Mais après avoir fait connaissance de l'acteur qui assistait au festival, présent au festival qui l'honorait, et finalement ayant trouvé sympathique ce bonhomme de 89 ans, tellement dynamique et bourré de projets, que je me risquais à revoir le célèbre Grand Blond avec une chaussure noire. Et à ma grande surprise, je fus gagné par une énorme jubilation partagée par la salle. Et je me demandais l'origine de ce soudain engouement. Bien sûr, il y avait le talent et le professionnalisme de Pierre Richard, de Mireille Darc, Bernard Blier, Jean Rochefort, Jean Carmet et les autres, mais cela n'expliquait pas la tornade de rire provoquée par le film d'Yves Robert, réalisé en 1972 et qui avait obtenu l'Ours d'argent à Berlin en 1973. Et qui passe régulièrement, mais très régulièrement, sur les chaînes de télévision. Et soudain, je pris conscience combien ce film, jouant sur le comique de situation où un homme distrait et banal va se trouver en toute innocence victime des imbroglios des services secrets français. Ce François Perrin, en fait, c'est nous. Yves Robert, mine de rien, nous parle du rôle que les services de renseignement ont joué sur l'imaginaire français. Cette guerre des services et l'omniprésence du renseignement en France a pris une forte extension durant la Seconde Guerre mondiale, où les services secrets gaullistes de Londres disputaient l'exclusivité du renseignement à d'autres résistants qui, eux, travaillaient pour les services britanniques, allant jusqu'à les accuser de traîtrise. À la Libération, où débutent à la fois la décolonisation et les problèmes intérieurs, le rôle du renseignement va devenir exponentiel et, chose dangereuse, s'autonomiser de plus en plus dans ses actions, sans qu'il y ait un contrôle sérieux de l'État sur le bien fondé de certaines opérations et la non-justification d'une surveillance accrue des citoyens. Le comble de cette tendance sera bien entendu durant la guerre d'Algérie, où les barbouzes s'en donnent à cœur joie. Les habitudes étant prises, avec les accords d'Évian, les services de renseignement désireront poursuivre leur omnipotence et leur omniprésence sur la vie française, avec à la clé des scandales retentissants. L'affaire Benbarka, la création du SAC, les écoutes non justifiées, etc. Les services de renseignement participeront fortement au corsetage de la société française sans s'apercevoir que l'évolution des mœurs se produit et que cette surveillance permanente devient insupportable. Mai 68 sera la fin de Jacques Foccart comme idéal. 1972, avec un culot à toute épreuve, Yves Robert tourne en dérision ses fonctionnaires ridicules, arrogants et parfaitement inefficaces. Ce qui sera repris avec bonheur dans la caricature de OSS 117 par Jean Dujardin quelques années plus tard. Revoir ce film, c'est finalement en arriver au conte indien sur la vérité. Dans le noir, on croit voir un serpent qui n'est en fait qu'un bout de ficelle. Et on en rit, enfin libéré d'un drôle de climat d'anxiété. Bon dimanche. Mais vérifiez qu'il n'y ait pas de micro qui traîne.
When I was eight, I had a friend with a pirate smile. Make believe and play pretend we were innocent and wild. Hop the fence and slam the gate, running down my alleyway in time to watch Sally's pigeons fly. We love to watch them dive and soar, circle in the sky, free as a bird from 3 to 4, and never knowing why. Neighbors pull their wash back in, put away my Barbie can. Look out overhead while Sally's pigeons fly. I had a fool's confidence that the world had no boundaries, but instinct and common sense, they come in different quantities. My heart began to skip to the beat of the boy next door. She had her eye across the street on someone shy and tall. We lived our dreams and challenged fate until she told. And Sally led his pigeons up to fly. Ooh. Ooh. On the dresser sits a frame with a photograph. Two little girls in ponytails some 21 years back. She left one night with just a nod, was lost from some.
Sally's Pigeons de Cyndi Lauper annonce la rubrique Le Monde qui vient. Pierre Yana a souhaité revenir ce matin sur la constitutionnalisation de l'avortement. La France est en effet devenue le premier pays au monde à constitutionnaliser l'interruption volontaire de grossesse cette semaine. L'occasion de rappeler que les droits des femmes ne sont jamais acquis, on les voit même régresser dans de nombreux pays. Rappelons aussi que les francs-maçons ont souvent pris part à ce combat pour ce droit si précieux pour les femmes. Ainsi, le parlementaire Henri Caillavé, franc-maçon bien connu, avait déposé une proposition de loi en ce sens en 1947 visant à légaliser l'avortement, c'est-à-dire bien des années avant la loi Veil de 1974. Écoutons Pierre Yana.
C'est un long combat que celui pour l'émancipation de l'humanité. En particulier, c'est un long combat que celui pour l'émancipation des femmes. En France, le 5 mars dernier, ce combat a connu une étape importante avec le vote par le Parlement de l'inscription de la liberté pour les femmes de recourir à l'IVG dans la Constitution. Inscription majeure, blocage institutionnel irrémédiable en démocratie, et ce, pour la première fois au monde. De cet acte, il faut bien sûr retenir l'émotion, les enjeux et les conséquences pour les femmes et, bien sûr, pour les hommes. Tout d'abord, l'émotion. Chacun, chacune des participants avait conscience de la hauteur du débat et du vote. On retiendra la solennité du protocole, le château de Versailles où se réunit le Parlement, la longue marche de la présidente du Parlement, Madame Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, entre deux haies de gardes républicains au son du tambour. Une femme seule au sommet du pouvoir parlementaire. Puis vint le discours de Yaël Braun-Pivet, qui remarque que, pour la première fois de l'histoire, c'est une femme qui préside le Parlement. Bien sûr, elle relie ce combat à celui de toutes les femmes qui ont défendu le droit à l'IVG, en particulier de Simone Veil, qui, presque 50 années plus tôt, avait fait voter la loi sur le droit à l'IVG. Dans ce moment de grande émotion, qui donc pourrait oublier Simone Veil, aujourd'hui au Panthéon de la République avec son époux? Elle était une rescapée de la Shoah. Qui pourrait oublier qu'à l'époque, il y avait eu des députés pour la traiter de nazie, sans vergogne? Simone Veil avait tenu face à l'adversité. La présidente qui avançait avec une cohorte des combattantes pour les droits des femmes, entre autres Gisèle Halimi. Vinrent d'autres émotions. Dans le discours du Premier ministre, le rappel de l'union de toutes les forces politiques, ou presque, au-delà de leurs légitimes différences, pour ce vote majeur, avec une nation à la hauteur de l'histoire. Beaucoup d'émotions aussi à l'audition de presque toutes les oratrices, tellement portées par le sens du combat. En particulier, le discours de Laurence Rossignol, ancienne ministre, qui avait beaucoup combattu, qui en appela à toutes ces femmes et au combat des féministes. Vive émotion à l'audition du sénateur Maluret, centriste, qui, jeune médecin coopérant, avait rencontré la détresse d'une pauvre jeune fille, désespérée, enceinte en cachette, qui avait accouché puis enterré son bébé. La détresse d'une situation terrible et pour la mère et pour l'enfant. Émotion personnelle, émotion politique, et bien sûr, le souvenir de Simone de Beauvoir, pionnière du combat des femmes modernes pour une autre liberté. Émotion, enfin, à l'annonce du résultat du vote par la présidente Yaël Braun-Pivet. 780 voix pour, 72 contre. Sans l'ombre d'un doute, le texte était massivement adopté par le Parlement, sur les applaudissements des sénateurs et des députés, et donc l'amendement immédiatement inscrit dans la Constitution, gravé dans le marbre de la République. C'était donc un rendez-vous avec l'histoire. Après l'émotion, les enjeux. La liberté pour les femmes de recourir à l'IVG est un marqueur important de l'émancipation des femmes et partant de toute l'humanité. Dans la soumission du corps des femmes, est toujours une donnée de domination par les hommes, suivie toujours de la privation de l'éducation pour elles. Mais l'emprisonnement dans la procréation, la maternité, quelles qu'en soient les conditions, surtout une maternité subie, est l'un des éléments de cette domination. On n'oublie pas qu'en Afghanistan, par exemple, le retour des extrémistes talibans s'est accompagné de l'enfermement, de l'éloignement de l'école et de la soumission des corps des femmes. En Iran, en Afghanistan encore, dans tant d'autres endroits, le voile est pour elles l'un des instruments de cette domination. Mais il ne sert à rien de stigmatiser des pays soumis aux extrémistes religieux, comme si d'autres pays, par exemple en Europe ou en Amérique, n'étaient eux aussi atteints par la régression. La Pologne, la Hongrie par exemple, dans lesquelles la part féminine de la démocratie est gravement atteinte. Rien n'interdit donc d'opérer le rapprochement avec l'habeas corpus médiéval, ce droit conquis de haute lutte retirait aux princes la possession de tous les corps et l'autorité sur eux. Sans excès, on peut dire que la liberté de l'IVG est un lointain héritier de l'habeas corpus, disposer librement de son corps est, pour les femmes, une manière d'affirmer une émancipation et un droit fondamental. La liberté, aujourd'hui inscrite dans la Constitution, ne permet plus le recul des libertés, sauf, bien sûr, au risque aux références, sauf destruction de la démocratie, ce qui devient un autre problème. En libérant le corps, on libère de toutes les oppressions et en particulier de la soumission et de l'ignorance. Il s'agit ici, bien sûr, des droits protégés par la démocratie. Il s'agit ici, bien sûr, de la conquête de l'autonomie politique pour tous, qui est l'un des apanages majeurs de la démocratie. Car, troisième temps, tel est bien ici le but ultime, faire avancer la démocratie. C'est un long combat pour les hommes et pour les femmes. Mais qu'on ne se leurre pas, le combat pour le droit des femmes peut régresser. On le voit dans bien des endroits de la Terre, on l'a vu dans l'histoire, par exemple avec Pétain, ou en Allemagne, nazie. On le voit encore aujourd'hui. La démocratie se construit lentement, avec des allées, des retours, avec souffrance et difficulté. Oui, parfois en reculant. Car c'est un combat pour l'ensemble de l'humanité, un combat universel. C'est à cette aune que l'on mesure l'importance de l'acte qui vient d'être accompli par le Parlement français. Il s'agit d'un pas essentiel pour l'émancipation de tous, hommes et femmes. Un pas pour l'égalité, un grand pas pour la démocratie. Bon dimanche.
Ça commence comme dans un film noir. Un jeune couple embarqué dans une sale histoire. Petit voleur fiché, recherché. La vie les a changés en marginaux blessés, en cavale, changeant chaque soir. Toute l'identité évitant les bars, traqué, une seule lueur d'espoir. Ce sera la fin. Nous sommes blanchis, sauvés. Rio, Rio Grande. Le temps va s'arrêter pour mieux nous oublier. Ah, on se promet une vie sans blues. Aïe, 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 aïe. Tout commence à Veracruz. Vrai mensonge, rêveurs éveillés. Le Mexique est très loin. Supermarché, les vigilants nous ont vu trop pérer. Ce sera toujours le blues dans la banlieue Mulhouse. Rio, Rio Grande, et la frontière. Nous sommes blanchis, sauvés. Rio, s'arrêter. Vaut mieux nous oublier. Nous serons blanchis, sauvés. Rio, Rio Grande. Le temps va s'arrêter. Pour mieux nous oublier.
Alors vous l'aurez compris, la chronique internationale de Willa Barès nous emmène au Brésil.
Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida.
Plus particulièrement dans l'état du Rio Grande, comme l'interprète Eddie Mitchell. Rio Grande, singularité de l'état des gauchos, en route vers le Brésil.
L'état du Rio Grande do Sul dans le sud du pays est l'un des 27 états qui composent le Brésil, cinquième pays le plus peuplé au monde avec 215 millions d'habitants. Sa capitale, Porto Alegre, au sud du 30e parallèle, à 2000 km de Brasilia, avec 1,5 million d'habitants, regroupe une part importante de la population du Rio Grande, estimée à 11,5 millions de personnes. C'est le cinquième état le plus riche du Brésil. L'âge moyen de la population est de 35,6 ans. Cet état, qualifié parfois d'Europe brésilienne, est considéré comme plus développé que le reste du pays. Il est perçu comme une région bucolique dans laquelle il fait bon vivre et où les relations sociales sont globalement plus apaisées que dans le reste du pays. L'état du Rio Grande do Sul est pour les revenus l'un des états les moins inégalitaires du pays. Lors de la proclamation de la République brésilienne en 1889, sous le nom des États-Unis du Brésil, l'état hérite des frontières de São Pedro. Cette continuité territoriale depuis plus de 200 ans explique pour partie le fort sentiment identitaire des gauchos. Ce sont les seuls Brésiliens qui arborent l'écusson de leur drapeau sur la voiture et chantent l'hymne de leur état à chaque grande occasion. Le 20 septembre, jour du gaucho, est aujourd'hui férié au Rio Grande do Sul. Les premiers colons allemands arrivent à Porto Alegre en 1824. Ce flux de migrants se poursuit au 19e et au début du 20e. En 1875, les Italiens arrivent dans le pays et forment un deuxième flux de migrants. Les zones fertiles des basses terres déjà occupées par les Allemands, les Italiens s'installent en moyenne montagne dans la Serra, au nord de Porto Alegre, et forment deux colonies importantes, Garibaldi et Bento Gonçalves. En termes de production nationale, l'état du Rio Grande est l'un des plus importants producteurs de riz, de viande bovine, de lait, de raisin et de vin du pays. L'économie du Rio Grande est diversifiée avec une forte production agricole, une industrie automobile en croissance et une industrie du tourisme en développement. Les flux migratoires, la glorification du travail et l'influence durable du positivisme d'Auguste Comte nourrissent encore le dynamisme du pays. Les secteurs les plus importants sont l'agriculture. Début des années 2020, c'est le plus grand producteur de riz du pays, avec plus de 70% de la production brésilienne et 7,3 millions de tonnes. C'est aussi le quatrième plus grand producteur de soja du pays, avec 18,5 millions de tonnes, le cinquième plus grand producteur de maïs, 5,5 millions de tonnes, le deuxième plus grand producteur de blé, 2,5 millions de tonnes. L'état du Rio Grande est aussi le deuxième plus grand producteur de viande bovine du pays, avec 2,3 millions de tonnes. C'est le plus grand producteur de volailles du pays, 1,3 million de tonnes, et le plus grand producteur de lait avec 4,2 milliards de litres. L'État est responsable de la production nationale de raisins et produit 90% du vin produit dans le pays, 85% du vin mousseux et 90% du jus de raisin, principalement dans la zone Caixa do Sul et ses environs. L'État du Rio Grande est le plus grand producteur de tabac du Brésil et le plus grand exportateur au monde. 98% de la production de tabac est réalisée dans la région sud et 90% de la production de tabac est exportée. L'industrie automobile. L'État abrite plusieurs usines de production automobile, notamment General Motors, Ford et Fiat. C'est aussi le deuxième plus grand producteur de bois du pays avec une forte production de bois d'eucalyptus. Le Rio Grande possède aussi de nombreux sites naturels et culturels, notamment les sites Niguacu et la ville historique de Gramado. Les faiblesses du Rio Grande comprennent encore une forte dépendance à l'agriculture, une faible diversification économique et un taux de chômage élevé. La culture gaucho est une culture traditionnelle très présente dans cet état. Elle est également partagée avec l'Argentine et l'Uruguay. Les gauchos sont des cow-boys sud-américains qui ont une place importante. Ils sont souvent représentés avec un chapeau, un poncho et des bottes. Le terme gaucho désigne à l'origine les gardiens de troupeaux de la Pampa, issus du métissage entre les Portugais, les Espagnols, les Noirs et les populations indigènes. La musique traditionnelle gaucha est souvent jouée avec une guitare et un accordéon. Le chimarro est une boisson traditionnelle à base de yerba mate. Le churrasco est un barbecue traditionnel souvent accompagné de viande de bœuf, de saucisses et de légumes grillés. En matière de développement durable et de protection de la biodiversité, plusieurs initiatives ont été mises en place et méritent d'être rappelées. La création de la réserve biologique de Sierra Gerald en 1975, une superficie de 17 000 km², est gérée par l'Institut Chico Mendes de conservation de la biodiversité. Cette réserve travaille en collaboration avec les communautés locales pour promouvoir la conservation de la biodiversité. Y sont préservés une grande variété d'espèces animales et végétales dont certaines sont menacées d'extinction. On y trouve notamment des jaguars, des pumas, des tapirs, des singes hurleurs, des haras et des toucans. Il faut souligner aussi la mise en place de programmes de gestion de déchets et de recyclage et la promotion récente de l'agriculture biologique et de l'agroforesterie. Il reste encore de nombreuses actions à mener d'urgence pour améliorer la situation du pays. Parmi elles, la réduction de la déforestation et la protection des zones forestières, la mise en place de politiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le changement climatique, la promotion de l'éducation et de la formation professionnelle pour améliorer les compétences de la population et stimuler l'innovation. Il continue d'y avoir de grandes différences entre les sexes. L'ego des hommes gagne ici comme ailleurs plus que les femmes. La discrimination raciale perdure, 82% des habitants du Rio Grande sont blancs contre 49% pour le reste du Brésil. Trois femmes portent toutefois la réputation du Rio Grande assez haut. Elis Regina, originaire de Porto Alegre, considérée comme les plus grandes voix de la musique brésilienne. Clarice Lispector, écrivaine brésilienne d'origine ukrainienne, considérée comme les plus grandes écrivaines brésiliennes du XXe siècle. Et Luisa Brunet, mannequin et actrice brésilienne, originaire de Itapaú, connue pour son engagement en faveur des droits des femmes.
Avant de nous quitter, je souhaiterais remercier toute l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche, ainsi que Gilles Solière, qui réalise et produit cette émission pour Radio Delta. Nous nous quittons avec « Debout les femmes », l'hymne du MLF, repris par 39 artistes en 2018, au profit de la Maison des Femmes en Seine-Saint-Denis, dont nous avons accueilli la directrice Gada Atem-Ganser dans la 111e édition de ce programme radiophonique. Bon dimanche à tous.
Les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves.
les femmes.